le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sans public malheureusement au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume consacré, confinement oblige, au film qu'on peut voir en DVD, Blu-ray, VOD avec Camille Nevers de Libération que je suis ravi de retrouver après son très long déconfinement, Nicolas Chalère de l'Obs, Michel Simon de Positif et Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles au programme ce soir. Le ciel peut attendre de Lubitsch, Thérèse d'Alain Cavalier, Full Metal Jacket de Kubrick, L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, La cérémonie de Chabrol et même Borat 2 dans le courrier de la semaine. La fois dernière, on parlait du Cercle Rouge de Melville. Eh bien, Arnaud Sanquer est déçu. J'adore Melville, mais en revoyant ce film, je n'ai presque rien ressenti. L'objet est devenu ripolliné, trop propre sur lui, tellement loin de ses pièces majeures. Au contraire, François Simonet de Bushmen, que je vous aime, cher masque, quand vous avez le bon goût d'être de mon avis. Oui, le Cercle Rouge est un grand film aussi intense qu'émouvant. Tout ce que vous en avez dit me paraît juste. Un petit reproche tout de même, vous avez évoqué deux autres films de Melville, Le Samouraï et L'Armée des Ombres. Vous avez oublié Le Deuxième Souffle, qui est un chef-d'œuvre. Et Gervaise B. a été comblée par ses éloges du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, que j'ai eu, nous dit-elle, la chance de côtoyer en tant que secrétaire de 1968 à 72. J'avais 20 ans et il m'a permis d'entrer dans ce milieu par la grande porte. Quelques années plus tard, j'ai eu le plaisir de tourner avec Sidney Pollack. Merci pour votre belle émission pleine de nostalgie. À propos de nostalgie, tiens, La maison des Bory de Jacques Daniel Valcroze que j'avais inscrit. Philippe Giraud se rappelle l'avoir vu à 14 ans et, écrit-il, ça m'a laissé un souvenir impérissable avec une Marie Dubois rayonnante qui nous fait ressentir l'intensité de la vie, de la transgression et de l'amour. Pour Geneviève Winter de Nice, le film a vieilli, mais je me souviens, ajoute-t-elle, de l'enthousiasme de Jean-Louis Bory. Pour ce film, il avait pointé la fin du modèle patriarcal incarné avec talent par Maurice Garrel et la conjonction admirable entre la lumière de Sisteron et la musique de Mozart. Sophie Flamand s'étonne que personne n'ait réagi à la tribune quand Éric Neuhoff a déclaré que Daniel Valcroze faisait partie de la première équipe des Cahiers du cinéma où il n'y avait, elle cite Neuhoff, que des types de droite, sinon d'extrême droite. Les Cahiers ont été, Jean-Marc le sait bien, créés en 51 par un cateau de gauche, André Bazin, et par Doniol, qui a signé le manifeste des 121 sur le droit de l'insoumission en 60, en pleine guerre d'Algérie. Enfin, Michel, qui habite La Chapelle-Thouarot, près de Rennes, nous remercie de parler de films anciens et trouve que le confinement est l'occasion de partager des émotions cinématographiques avec ses enfants, en l'occurrence Jeanne et Juliette, 10 et 8 ans. Nous avons vu ensemble La vie est belle de Capra, un Américain à Paris. Vos camarades masqués pourraient-ils nous conseiller des films à voir en famille? Pour ma part, moi je conseille évidemment Peau d'âne de Jacques Demy, qui ressort chez Arte Vidéo, et dans un livre de Rosalie Varda à La Martinière. Est-ce que vous avez des conseils à donner à Michel, je ne sais pas, Camille, Jean-Marc, oui, Nicolas?
Il y a un coffret Rare Eozen qui est un peu à l'origine du cinéma d'animation en prise de vue réelle, et il avait fait des dessins animés à une époque qui cherchait Carlotta et qui est une belle chose à redécouvrir pour les fêtes.
En famille, oui.
Oh, Le Chant du Missouri, je ne sais pas s'il sort en DVD ou pas, mais le film de Minelli est un film familial par excellence.
Bon conseil.
Voilà.
Moi, j'ai pas mieux que Peau d'âne.
T'es d'accord avec moi?
Absolument.
En plus, les deux versions sont magnifiques. Hein. Michel?
Les Contrebandiers de Bonnefleet. Sorti en DVD de Fritz Lang.
Voilà, Michel est comblé, je l'espère. Et on commence pour le plus grand bonheur du plus kubrickien d'entre nous, c'est-à-dire Michel Simon, avec Full Metal Jacket, film de 1987 de Stanley Kubrick. Warner Bros. Ressort dans une édition 4 étoiles en Blu-ray, DVD, ainsi qu'un coffret réunissant 2001, Shining, Full Metal Jacket, une restauration supervisée. Si je dis une erreur, tu me le signales, hein, Michel. Par Léon Vitali, ex-assistant de Kubrick, Full Metal Jacket, autrement dit balle blindée, montre pendant 2 heures et en 2 parties distinctes de jeunes Marines à la fin des années 60, qui d'abord s'entraînent à Paris Island, en Caroline du Sud. Entraînement, il faut dire, à la schlag, hein, pour ne pas dire à l'humiliation, et qui participe ensuite à la guerre du Vietnam et à l'offensive du Tet, avec au centre du film J.T. Davis, alias Joker, joué par Matthew Modine. Ce film de guerre, donc le 4e de Kubrick, qui est devenu culte, il faut dire la vérité, a donc 33 ans ces jours-ci. Comment vous le jugez après sa sortie? On va commencer par Michel, évidemment.
C'est un film, comme la plupart des films de Kubrick, qui avait beaucoup divisé la critique.
Parce que oui, qui était même une partie très hostile.
Oui, comme ça a été le cas pour Shining, pour 2001, enfin c'est classique. C'est vrai que c'est un film qui est venu après des films qui avaient beaucoup marqué, comme Apocalypse Now, comme Platoon, qui était juste avant, et puis Le Voyage au bout de l'enfer. Et en fait, c'est un film qui se distingue de tous ces films de façon radicale. C'est-à-dire que Coppola jouait l'opéra, le frisson musical, la chevauchée des Valkyries, c'est-à-dire il transformait la guerre en une sorte d'opéra grandiose. Platoon, c'était le bon soldat et le méchant soldat. Et puis Le Voyage au bout de l'enfer, c'est une sorte de western, d'aspiration vers la nature, etc. Alors que Kubrick, il montre la guerre à nu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun romantisme, il n'y a aucune échappatoire. C'est-à-dire la guerre, c'est atroce. Et c'est l'expérience de cette atrocité qu'il va nous montrer, avec une première partie qui est un ordre militaire effroyable avec son humour noir, et ce sergent recruteur qui joue son propre rôle, qui dit à un garçon obèse « Tu es si laid que tu pourrais être un chef-d'œuvre de l'art moderne », des phrases absolument inoubliables. Et c'est une première partie donc qui est totalement géométrique, carrée, rigoureuse. Et la troisième partie, entre les deux, il y a une série de vignettes sur différents aspects de la guerre, avec le mensonge, les émissions télévisées, les interviews, etc. Et la troisième partie, c'est vraiment l'impératif territorial, c'est-à-dire une jeune Vietnamienne, une Viet Cong, qui seule résiste à toute une troupe. Elle défend son territoire, elle sera finalement tuée. Et là, c'est un chaos apocalyptique. Et ça m'avait beaucoup fait penser à une phrase de Valéry, qui disait « Deux dangers menacent le monde ». L'ordre et le désordre. Et je crois que Kubrick s'explique complètement par ça. C'est-à-dire qu'il y a une frayeur devant l'ordre et une frayeur devant le désordre.
Camille.
Alors ça tombe mal parce que moi, Kubrick, c'est vraiment pas mon cinéaste de chevet. Donc je vais encore me faire beaucoup d'amis pour mon retour parmi vous. Cela étant, non, je l'avais jamais vu. Full Metal Jacket.
Ah, c'est pas vrai.
Non, parce que Kubrick, c'est pas un cinéaste qui m'intéresse.
Mais au point de pas le voir.
Non, mais c'est bien, grâce au Masque et la Plume, je découvre des films que j'avais ratés à l'époque. Voilà, je me souviens juste de la couverture des Cahiers du cinéma avec ce troufion qui avait la tronche de Shining, là, de cette espèce de fou délirant. Bon, le film a plutôt agréablement surprise, parce que bon, on peut pas retirer à Kubrick qu'il s'est filmé la guerre, que c'est pas la première fois qu'il la filmait, puisque entre Les Sentiers de la Gloire et Barry Lyndon, il a cette espèce de talent pour nous faire tâter de la chair à canon. Ça, on voit très bien ce que c'est qu'un bout de fer qui rentre dans un corps, comme disait Godard, de la guerre. Il y a toujours, après, quand on aime Kubrick, on trouve le film assez sobre, toujours un peu éteint, qui se traîne. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu inerte, comme s'il avançait des soldats de plomb, des soldats de bois. Il y a une inhumanité qui se joue toujours, qui me touche pas du tout chez Kubrick. Il y a toujours quelque chose qui me manque, qui relève.
Mais tu parles aussi bien de Shining que de... Tu n'es jamais touché par ces films?
Non, jamais, non. Sauf Barry Lyndon, un peu. Ouais. Celui-là, le début et la première partie est assez forte, mais... Non, Kubrick est vraiment un cinéaste inhumaniste qui m'intéresse pas du tout. Et c'est pas par lui que j'aime le cinéma. Et en plus, il est misogyne, mais ça, c'est accessoire à la limite. Mais c'est vrai que les bonnes femmes sont soit des prostituées chez lui...
Au Vietnam, oui. C'est,
pardon?
C'est parce que c'est le contexte aussi, c'est le Vietnam. Et c'est...
Oui, enfin, Nancy Sinatra sur la pute qui arrive dans la rue.
Ouais,
le plan
imaginaire.
Est beau, on dirait du Tarantino, mais sinon, c'est quand même hallucinant. Non, c'est des trucs de prostitution.
Il y a la snipeuse quand même,
qui est un personnage fort. Oui, mais la snipeuse, alors j'ai un autre problème avec le film, c'est que...
T'as plein de problèmes avec...
Il a un truc de confusion sur l'axe qu'il décide de choisir pour filmer, parce que soit il se met du côté des journalistes qui filment la guerre, donc on est dans le spectacle, soit il est du côté des troufions, en effet, la phrase de Valérie est très belle, soit il est du côté de l'ordre ou du désordre, mais à un moment donné, cette espèce de plan subjectif, où on voit pas qui est le sniper au départ, toute cette scène de siège... où les uns après les autres les soldats se font dessouder, on ne sait pas de quel point de vue ils filment. Est-ce qu'il est du point de vue de la snipeuse, qu'on ne voit pas jusqu'à temps qu'elle soit touchée et qu'on découvre que ce n'est qu'une enfant, un peu comme on a vu chez Fuller dans Verboten et tout, mais il y a toujours quelque chose, on ne sait pas s'il est du côté du Born to Kill que Matthew Modine a sur son casque, ou du côté du pacifisme sur son cœur, là, le signal pacifiste. Quand on lui pose la question, il répond en disant « Oui, c'est un petit peu la complexité, la dualité de l'homme, mais finalement, je le trouve toujours un petit peu... »
Il a un point de vue qui est toujours un peu distant, supérieur, de moraliste. Un peu le point de vue de Dieu.
Je vois bien qu'on ne t'a pas réconcilié avec Jean-Marc.
Alors, moi, j'ai un rapport à Kubrick qui se situe quelque part entre Michel Simon et Camille Nevers.
Ça ne m'étonne pas de toi, ça.
Voilà. Mais ces trois derniers films sont des objets de fascination très forts pour moi. Shining, Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut. Full Metal Jacket, étrangement, je ne l'avais jamais revu. Je l'ai vu à sa sortie. Je m'en souvenais extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de décantation des plans de Kubrick, une manière, une force visuelle qui fait qu'on n'oublie jamais ce qu'on voit, qui est quand même sidérant. Et j'étais sidéré une seconde fois par l'étrangeté du film. C'est-à-dire que sa construction est une énigme que rien ne vient entamer. Et la manière dont il fait, c'est comme s'il faisait deux moyens-métrages aux deux extrêmes du film. Un qui est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est les premières 40 minutes sur la formation et le dérèglement de ce garçon qui va devenir un assassin. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Puis tout à coup, on passe d'une extrême condensation à une très très grande dilatation. On a l'impression que le film se perd. Tout à coup, ça devient vraiment filandreux. On sait pas où on va. Il y a plus vraiment de personnages. Matthew Modine n'arrive pas à consister comme personnage, il s'est totalement déconstruit dramatiquement, et tout à coup ça se rassemble à nouveau pour 30 minutes assez bourrifantes, qui est la scène du sniper. Donc c'est un film un peu fou, dont l'essentiel est une sorte de trajet entre deux moyens-métrages, et tout ça pour aboutir à une vision que Camille dit inhumaine, mais qu'on pourrait même dire anti-humaniste. Enfin,
oui. Elle dit inhumaniste.
Inhumaniste, ouais.
Mais tout est shitty, tout est shitty, on entend shit à peu près 100 000 fois.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Les Sentiers de la Gloire était un film vraiment humaniste, anti-belliciste. Là, c'est comme s'il n'arrivait même plus à penser ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il a un degré d'effroi, de panique face à ce qui est montré, quoi. C'est tellement une horreur pure que c'est de l'ordre de l'impensable et on n'arrive pas à savoir ce qu'il en pense, effectivement.
Nicolas.
Mais ce qui est fascinant, c'est que ça, vous l'avez très bien dit, qu'il y a vraiment deux films différents, voire même trois, et en même temps, c'est deux parties complètement symétriques et le processus, ce que décrit, c'est pas autant un film sur le Vietnam que sur la déshumanisation du processus, d'abord de la déshumanisation qu'on inculque, c'est la première partie, et puis après, c'est l'exercice du terrain et comment en survivant, on ne devient plus un homme, et c'est les sujets de la plupart des films de Kubrick.
Le traitement Ludovico.
Complètement, la folie, et puis comment on arrive à la folie. C'est-à-dire qu'à la fin, Modine dit quand même « Je n'ai plus peur », et « Je n'ai plus peur », c'est terrible. C'est-à-dire qu'il a perdu son humanité au moment de tuer cette jeune femme asiatique, vietnamienne, à la fin. Et donc, c'est fascinant chez Kubrick, c'est vraiment un film purement mental et purement... c'est vraiment des idées qu'il met en place. C'est pour ça qu'il n'y a pas de regard humaniste, et même les personnages sont presque des fonctions plus que des personnages, quoi.
Mais est-ce que c'est si intéressant que ça, ce qu'il
a dit? Moi, je trouve, alors, c'est vraiment un film dont c'est la troisième fois que je le vois, je crois, et j'ai un rapport très mouvant avec ce film. Autant Les Sentiers de la Gloire est un film qui me bouleverse et qui me prend à chaque fois, parce que c'est pas du tout la même forme, et c'est un sujet assez proche, mais c'est une forme plus, c'est le théâtre de la guerre, et c'est beaucoup plus incarné. Et là, il y a quelque chose, Kubrick devient de plus en plus sec au fur et à mesure de sa carrière, et là, c'est comme s'il mettait des idées en place. Et moi, la première partie est celle qui m'a le plus gêné, parce que je la trouve plus démonstrative. La deuxième me déstabilise, parce qu'effectivement, il y a un côté journal de bord, comme ça, où c'est un chaos on voit l'absurdité d'une mort qui survient d'un coup, mais la première partie je la trouve presque trop démonstrative dans ce processus de d'abrutissement des êtres et le personnage de Pyle, la manière dont ses cothurnes le massacre à un moment le tabasse, on comprend pas pourquoi ils font ça à ce moment-là. C'est comme s'il y avait des scènes qui avaient été coupées presque. Je suis plus convaincu par le Kubrick anti-belliciste des Sentiers de la Gloire que par ce film beaucoup plus, j'allais dire, mental et beaucoup plus appliqué, quoi.
Un mot, Michel, pas plus.
Oui,
hein.
Non, je reviens sur l'humanisme.
Oui,
je pense que
un
c'est
mot parce qu'il y a d'autres films qu'on va évoquer.
Je pense que c'est un cinéaste humaniste parce qu'il est toujours du côté de la victime. On disait que c'est un homme égoïste, qui ne s'intéresse pas aux hommes, etc., en misanthrope. Si vous regardez bien Kubrick, tous ses films, il est du côté de la victime. De Lady Lyndon, des Sentiers de la Gloire, les soldats, de Ici, c'est le garçon obèse. Il est sur la condition humaine, c'est devenu complètement, pour moi, en défense du malheur d'être un homme sur Terre.
Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, et c'est chez Warner Bros. Sous le titre « Pourquoi pas ?» Suspense au féminin. Carlotta sort un coffret Blu-ray qui contient 5 films de Claude Chabrol, réunis pour la première fois en version restaurée. L'enfer, rien ne va plus, merci pour le chocolat, la fleur du mal et la cérémonie qui date de 1995. film adapté du roman de Ruth Rendell, L'analphabète, mais évidemment aussi inspiré de l'affaire des sœurs Papin qui assassinèrent leur patronne et de la pièce de Jean Genet, Les Bonnes, soit une famille de la bourgeoisie provinciale, Monsieur, Madame Lelièvre, Jean-Pierre Cassel et Jacqueline Bisset, et leur fille Mélinda, c'est Virginie Ledoyen. Sophie, c'est Sandrine Bonner, qui cache qu'elle est analphabète, est engagée comme domestique chez les Lelièvre. Sophie est l'amie de la postière du bourg, Jeanne, qui est Isabelle Huppert, laquelle voue une haine tenace aux Lelièvre, et peu à peu la machine infernale se met en place. Jusqu'au soir où, alors que les Lelièvre regardent en habit un opéra à la télévision, Sophie et Jeanne débarquent dans la belle maison, fusil à la main. C'est Hitchcock plus Marx, je rappelle en effet que Chabrol qualifiait ouvertement son film de marxiste. La cérémonie 1995, Nicolas, aujourd'hui, qu'en penses-tu?
Je l'avais vu en salle à l'époque, je pense que j'étais un petit peu...
Bah t'étais pas le seul.
Oui, mais c'était, c'est pour dire que j'étais un petit peu jeune et que j'avais...
N'exagère pas sur ton âge.
Et que, non, mais...
T'étais né?
Chaque fois.
Et que j'avais pas, je pense, saisi toutes les subtilités et l'ironie de Chabrol, peut-être. Et là, c'est vrai qu'en le revoyant, ça a été une belle surprise. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert Chabrol, effectivement, en salle. Je pense que mon premier Chabrol, ça devait être L'Enfer. Et j'ai dire, c'était pas forcément sa plus grande période. Fin des 60 et les années 70, c'était quand même beaucoup plus inspiré, on va dire, mais c'est vrai que la cérémonie, là, en le revoyant, je me suis rendu compte quand même à quel point dans cette partie-là de sa carrière, c'était peut-être sûrement un de ses meilleurs films. Et ce qui est troublant, alors j'avais même oublié le fait que Bonner était, que le personnage de Bonner était analphabète, et pour moi, c'était tellement central dans le film.
Ah oui, mais c'est central.
Ah oui, c'est incroyable. D'ailleurs, le personnage de Bonner et la manière dont elle l'interprète, je pense que c'était un rôle quand même très très compliqué à jouer, parce que si on fait bien attention, elle a très peu de répliques, et les peu de répliques qu'elle a, c'est toujours les mêmes répliques qu'elle répète. Elle dit soit je ne sais pas, soit j'ai bien compris. Comme si elle pouvait pas intégrer d'autres éléments plus complexes du fait de son handicap. Et s'ajoute à ça l'influence de la télévision. Alors c'est intéressant aussi de revoir le film aujourd'hui parce que c'est un film contemporain à peu près de Tueur en Né de Oliver Stone, qui était aussi un film sur comment la télévision, l'impact de la télévision et toutes ces images sur les âmes un peu faibles, on va dire. Voilà. Et il y a cette dimension-là. Il y a bien sûr la dimension de la lutte des classes. Mais j'allais dire, c'est presque plus une incommunication de classe, quoi. C'est ça qui est...
Pour Chabrol, c'était essentiel. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais je parle du Chabrol, là. Pour le coup, c'est essentiel dans le Chabrol. Et c'est presque plus, c'est terrible parce que il y a une générosité, un accueil de la famille bourgeoise de la personnage de Bonner. Et en même temps, il y a toujours le petit mot, le petit geste qui démontre la condescendance presque naturelle de classe. Et c'est ça qui est terrible. Et toute l'ironie de Chabrol, elle est là-dedans. Et je pense que ça a beaucoup inspiré, par exemple, Bong Joon-ho pour Parasite. C'est très intéressant de faire le parallèle, d'ailleurs, entre les deux films.
Oui, c'est aussi Les Blessures assassines de Jean-Pierre Denis.
Voilà, alors ça, c'était... parce que c'est inspiré des Sœurs Papin aussi.
Voilà, mais qui est très proche dans l'esprit. Hein.
Ouais. Donc voilà, donc c'est un film qui est aussi intéressant. Bon, on pourrait continuer longtemps,
alors,
mais...
tout le monde va... Les autres vont parler, Jean-Marc.
Oui, c'est un film qui est vraiment jubilatoire. C'est-à-dire que c'est un film qui... Enfin,
jubilatoire, tu parles de la forme.
Qui fait vraiment ressentir une jubilation très forte et double. C'est-à-dire que c'est un film qui nous fait jubiler parce qu'il nous fait rire. Et il y a quand même une dimension de satire sociale extrêmement accomplie qui fait que le film est drôle tout le temps.
La scène de l'opéra à la télévision
il s'habille en smoking à salle, comme s'il allait réellement à l'opéra, alors qu'il est dans son salon, il y a plein de détails comme ça, très très drôles. Donc il y a une jubilation liée à la part de comédie du film, mais c'est aussi un film qui fait jubiler dans sa dimension d'angoisse et de peur. Donc c'est vraiment un plaisir de cinéma extrêmement fort. Moi je pense que c'est vraiment des grands films de Chabrol à égalité avec ses plus grands films des années 60. Et c'est un très grand film de mise en scène, et la mise en scène chez Chabrol, ça tient avant tout à la mise en place, c'est-à-dire la manière dont il gère cet espace de la maison, même l'espace de la gare, la façon dont d'abord Jacqueline Bisset attend Sandrine Bonner, puis Sandrine Bonner va prendre un train plutôt pour pouvoir être celle qui attend Jacqueline Bisset, la façon dont on découvre qu'il y a un balcon qu'on n'avait jamais vu dans la maison qui fait des Lelièvre des cibles. Il s'appelle évidemment pas Lelièvre pour rien. Il y a vraiment une intelligence de la mise en place, de l'occupation de l'espace qui est vraiment évidemment Hitchcockienne, qui est interloquante. Et Chabrol, il fait jamais de la belle image.
Le roman de Rendell était très bon, hein, pour une petite parenthèse. Hein,
qui a je l'ai pas lu, mais...
Il s'appelait L'analphabète.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Et un mot pour finir, je trouve justement sur cette question de l'analphabète, Sandrine Bonner, vraiment, je pense que c'est là encore une des plus belles compositions de Bonner. Elle est absolument géniale dans le film. Ce que nous dit l'analphabète d'un point de une façon métaphorique sur la honte sociale, c'est d'une force inouïe, quoi. La honte de venir de là où on vient, d'être ce qu'on est incarnée par le corps de Bonner avec une éloquence stupéfiante.
Camille.
Oui, oui, celui-là, je l'avais vu à l'époque. il a très, très bien vieilli. J'avais une réserve par rapport à d'autres Chabrol. Alors, il faut quand même dire que Chabrol nous manque beaucoup, parce qu'il y a ce genre que personne ne réussit à part lui et qui manque. C'est ce qu'on appelle l'étude de mœurs, au sens où, justement, la culture, les goûts, le monde, ce sont les classes. Et donc, en fait, il filme ça, la façon dont des personnages, selon qu'ils viennent d'une culture ou d'une aculture, sont dans une guerre polie, une guerre souriante et bourgeoise, mais une guerre quand même, une guerre des mondes, quoi. J'avais un souci, c'est-à-dire que Bonheur est génial, c'est vraiment les grandes années de Bonheur, de À nos amours jusqu'à Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle de Rivette, et en passant par un film que j'adore de Chabrol qui est La couleur du mensonge, hein, où elle revient plus tard, qui est un grand, grand Chabrol de ces années-là. Et elle a une espèce de sécheresse défiante absolument géniale pendant tout le film, une espèce de chose qu'elle a apportée au cinéma, que Piala lui a fait jouer très jeune, mais qu'elle a continué à apporter en se desséchant à vue. J'avais un souci avec Huppert à l'époque. Alors en même temps, il est hors de question que je dise du mal de Huppert à ce micro, parce que je suis là pour venger son honneur, vu que les injures qu'elle s'est prises par un membre honoraire de l'émission. Et donc, j'ai revu le film autrement, parce que je trouvais qu'en postière prolo et cervelée, elle n'était pas très très crédible à l'époque. Ça me semblait un peu étrange de la voir face à Bonheur, qui est comme ça, dans une espèce de... Elle a toujours un souci, disons, Isabelle Huppert, avec le fait de jouer avec une autre comédienne. Elle vole un petit peu, elle essaie de voler le truc, elle fait un peu le clown tout le temps. Et en même temps, en revoyant le film, je trouve qu'elle est géniale dans ce qu'elle apporte, parce que bien sûr, grande comédienne chabrolienne, elle apporte un peu ce que Jean Poiret en Lavardin apportait dans les films de Chabrol, à savoir une sorte de satire, de folie un peu cruelle comme ça, qui fait que la logique du film qui va vers le massacre final fait que c'est elle qui fait que le film s'emballe comme ça, dans une espèce de on sait plus pourquoi, et c'est pas seulement les bonnes, c'est pas seulement l'analphabétisme, c'est vraiment une sorte de couple qui finit par s'entraîner pour aller jusqu'à un crime social qui est assez incroyable pendant toute une scène de Don Giovanni magnifique.
Mais elle joue un peu le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, Huppert, dans le film. C'est ça qui est intéressant de voir l'influence qu'elle a sur Bonheur. C'est un peu ce qu'auraient les réseaux sociaux aujourd'hui, si on réfléchit.
Michel.
Oui, Chabrol disait « Je suis pour les intrigues simples aux personnages compliqués ». Alors je trouve que c'est parfaitement, ça s'applique parfaitement à ce film. Moi j'aime beaucoup cet aspect de Chabrol, c'est un cinéaste très très inégal, mais quand il est bon, il est très bon. Et ce qui est fort dans ce film, c'est la façon dont on change de position, le spectateur change de position à l'égard des personnages. C'est-à-dire qu'au début, on est du côté de ces deux femmes. Elles sont très sympathiques par rapport au bourgeois joué par Jean-Pierre Cassel, qui a toutes les caractéristiques du bourgeois méprisant, suffisant, etc. Et en même temps, d'un seul coup, il y a une rupture brutale et ça devient des monstres sanguinaires. C'est complètement déstabilisant la façon dont il fait évoluer ces personnages. Et moi, j'aime beaucoup, c'est un aspect de Chabrol qu'on retrouve dans Violette Nozière, dans Une affaire de femme, dans Betty, c'est-à-dire des personnages de femmes apparemment assez lisses, énigmatiques, intelligente, et je trouve que l'opposition des deux personnages, en plus des deux actrices, c'est-à-dire le côté Isabelle Huppert tout en rondeur, espiègle, on se souvient de Coup de torchon de Tavernier, c'est un de ses rôles, ça ressemble beaucoup à son rôle de Coup de torchon, c'est-à-dire le côté vraiment jeune fille délurée, postière, qui adore la lecture, etc., et le côté très anguleux de Sandrine Bonheur. Je trouve que l'opposition même physique entre les deux personnages est tout à fait remarquable.
La cérémonie de Chabrol, c'est donc dans ce coffret où vous trouverez L'Enfer, Rien ne va plus. Merci pour le chocolat, La fleur du mal. Coffret de Carlotta, L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, qui vient d'être rediffusé sur Arte, qui lui consacrait un cycle. Et c'est disponible chez Arte Vidéo dans un coffret qui rassemble 8 films de Truffaut, en version restaurée bien sûr, et pour la première fois en Blu-ray, La mariée était en noir, La sirène du Mississippi, L'enfant sauvage, Une belle fille comme moi, L'histoire d'Adèle H, L'argent de poche, La chambre verte, et donc L'homme qui aimait les femmes, film de 1977, écrit pour Charles Denner avec Brigitte Fosset, Nelly Borgeot, Geneviève Fontanelle, Nathalie Baye, Leslie Caron, d'autres encore. Bertrand Morane, c'est Denner, plus dennerien que jamais, si j'ose dire, est ingénieur dans une entreprise d'aérodynamisme. Enfin, il s'occupe bizarrement de bateaux sur des petites surfaces d'eau. Il est surtout amoureux fou des femmes et obsédé par leurs jambes. Ce sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Elle le dédommage de sa mère qui ne l'aimait pas, de son épouse, Vera Leslie Caron, qui l'a quitté. Et il décide de rassembler dans un livre toutes ses conquêtes sous le titre « L'homme qui aimait les femmes ». On ne dira pas comment ça se termine. Au masque et la plume, Jean-Louis Borry appréciait que Charles Denner, là je le cite, n'est rien du playboy, du rouleur de mécanique, du séducteur ordinaire qui doit tout à l'éclat de son dentifrice ou au vernis de son huile à bronzer. L'homme qui aimait les femmes, ajoutait-il, est aussi l'homme qui aimait les livres. Camille.
Alors, François Truffaut fait un film testament, même si on n'a pas le droit de raconter ce qui se passe au début et à la fin du film. Une sorte d'autofiction. Lui, il appelle ça des mémoires, il se réclame des mémorialistes. Mais enfin, c'est une autofiction, pratiquement. C'est lui qui raconte un petit peu sa manie, son érotomanie envers la gente féminine. Et il y a ce moment très beau où Brigitte Fossel lui dit, mais vous savez, le monde change. Vous êtes... représentatif d'un monde qui est en train de disparaître. Et le film est à peu près ça. C'est-à-dire que moi, je l'avais pas revu depuis très longtemps, comme la plupart des Truffaut. J'en regardais un souvenir comme ça de ce qu'il est, un film comme ça, de collectionneur, de cavaleur, de coureur, d'homme qui ne cache pas non plus sa veulerie, ses défauts. Il y a assez peu d'autocomplaisance dans le film. Je trouve qu'il donne un portrait de la veulerie masculine et de son obsession. C'est un obsédé sexuel. Enfin, il y a quelque chose d'assez franc et d'assez honnête dans cet autoportrait de lui-même. Après, je me dis que quand même, il y a quelque chose qui est... C'est marrant parce que Denner jouait dans Landru, on vient de parler de Chabrol, et il a toujours cette espèce de présence unique dans le cinéma français. Il jouait déjà chez Truffaut dans La Mariée était en noir et tout, mais j'ai l'impression vraiment que Denner, il a une espèce de présence à la Jules Berry, une sorte de Jules Berry tout aussi rauque, mais en plus cassé, en plus séducteur, raté. Enfin, il y a quelque chose de très touchant dans le corps de Charles Denner, entouré de toutes ces femmes. Et donc, il y a chez Truffaut cette espèce de façon de faire un ciné-doc, c'est-à-dire que c'est vraiment la partie pour le tout. Les femmes chez lui sont toujours des parties. Alors, il y a les jambes, une voix au téléphone.
Les jambes étant le plus important, hein, quand même.
Oui, oui, mais enfin, il a la voix au téléphone de cette aurore qui doit la réveiller le matin, la photo qui a été déchirée en mille morceaux qu'il faut reconstituer. C'est une période chez Truffaut assez faste, je trouve, parce qu'il y a des beaux films un peu réflexifs, déprimés. C'est la période de La Chambre verte, d'Adèle H, même de L'amour en fuite, qui est un film assez déprimé. Je trouve que c'est un film assez testamentaire, parce que finalement, il est mort très jeune, Truffaut. Moi, je voyais ça, j'étais toute petite, mais quand je me rends compte qu'il est mort à 52 ans, c'est quand même fou. Et il y a cette espèce de façon un petit peu blême, blafarde, de dire voilà ce que je suis, ce que j'ai été. Et on me jugera. C'est un livre dans le film, mais c'est un film qu'on regarde.
Michel ?
Oui, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai un rapport à Truffaut assez compliqué, parce qu'il y a des films de lui qui, quand il parle de la passion amoureuse, le côté tragique, La Sirène du Mississippi ou La Mariée était en noir, je marche pas beaucoup. Et là, c'est un film pour moi qui a un charme, une intelligence constante. J'ai pensé au roman d'un tricheur de Guitry, avec cette voix off. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup au roman d'un tricheur, c'est le roman d'un séducteur. Et je trouve le film, avec tous ces personnages féminins, extrêmement attachants. Et en particulier, je crois que c'est un film très personnel, un des films les plus personnels de Truffaut. Je pense que avec Charles Denner, comme avec Jean-Pierre Léo ou avec Aznavour, c'est de lui dont il parle pas de lui à travers Belmondo ou Depardieu. Pas du tout.
Il parle à travers ses personnages. S'il n'était pas aussi personnel, il pourrait être... pour moi, parfois insupportable.
Ah oui,
c'est-à-dire, c'est ce qui le rend attachant.
C'est bien qu'ils soient antipathiques.
Voilà, absolument.
Par exemple, les types de femmes qu'on retrouve dans son cinéma, il y a les blondes qui ont l'air comme ça, un peu neutres, froides, comme Catherine Deneuve. Ici, c'est Brigitte Fosset. Ou au contraire, les brunes qui sont passionnées, c'est le personnage de Leslie Caro, Nelly Bourgeot. Et je trouve que c'est un film qui est à la fois littéraire et cinématographique. Le goût des livres, évidemment, qui est une passion pour Truffaut, qui était écrivain lui-même. Donc c'est un film très complet qui a un charme et une vivacité et une invention quasiment permanente.
Oui, Nicolas.
Ah, moi, c'est un de mes films de chevet, vraiment.
Chevet.
Ah oui, vraiment, j'adore.
Comment est-ce qu'on peut avoir un film de chevet?
Bah, un livre, parce que, je comprends, mais c'est, bah, justement, parce que c'est un
confinement.
C'est peut-être justement le film, je trouve, où Truffaut arrive à le mieux à allier son envie de cinéma et sa passion des livres parce que
c'est pour ça que le mot de Borry était très juste, je trouve.
Et c'est très beau la manière dont le film part sur une voix off, donc de Brigitte Fossé, donc un regard extérieur, et comment petit à petit, de manière très fluide et très intelligente, le film devient le roman qu'écrit qui dénerre, comment c'est Dénerre qui prend la parole, comment il la retransmet à la fin, ça serait vraiment très beau. Et surtout, comment il part d'un portrait d'homme à femme avec une sincérité, une clairvoyance assez rare. Et au début, il paraît vraiment comme un mufle. Et petit à petit, il détricote tous ses préjugés pour montrer ce rapport maladif qu'il a, parce qu'il est vraiment malade. Et en même temps, pour montrer à quel point le rapport assez névrotique à la vie, à quel point c'est pas du tout tributaire du fait qu'il soit un homme ou une femme. Et c'est ça où je trouve que, à l'heure du débat du male gaze et tout ça, le film est vraiment absolument passionnant là-dessus. Si on peut faire un parallèle aussi, vous parlez du roman d'un tricheur, mais moi je pense surtout au Ciel peut attendre. C'est-à-dire, c'est vraiment, dont on va parler dans 5 minutes.
Mais oui.
C'est vraiment c'est l'équivalent pour Truffaut du Ciel peut attendre pour Lubitsch. C'est-à-dire, c'est vraiment, il dit, j'ai peut-être pas été parfait, mais j'ai aimé. Sauf que chez Truffaut, c'est beaucoup plus angoissé. Chez Lubitsch, c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure.
On va parler après du Ciel peut attendre, qui est aussi une transition parfaite avec Thérèse. Jean-Marc.
C'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois, alors que je suis vraiment très familier de l'œuvre de Truffaut et dont je gardais le souvenir qu'il appartenait plutôt à la veine la plus lumineuse, la plus rose de Truffaut. Et là, j'ai vraiment eu, en le voyant, le sentiment inverse. C'est un film vraiment d'une très très grande noirceur. Et sur cette question ultra-truffaldienne de l'amour comme forme pathologique absolue, c'est un des films les plus radicaux qui soit. C'est vraiment le portrait de... Le désir n'est que des règlements. Et Charles Denner donne une dimension à la monomanie qui est très très inquiétante. Et comme le disait Camille, on ne peut pas oublier qu'il a été Landru et que dans sa manière de séduire ces femmes, il y a quelque chose de la prédation qui est pas loin du serial killer, il y a quelque chose qui fait peur vraiment dans le film. Mais là où je pense que le film est vraiment remarquable, c'est qu'il donne à chaque personnage féminin, il ouvre un champ à chaque personnage féminin pour exister dans toute sa complexité, et elles ont une force incroyable, quoi que ce soit Fontanelle en femme qui ne désire que les hommes plus jeunes qu'elle, ou Nelly Borgeau, où tout à coup la folie de Denner bute sur une folie très supérieure encore. Chaque personnage féminin ouvre un monde en soi, et ça, c'est vraiment très beau.
C'est donc L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, et je vous rappelle que c'est chez Arte Vidéo, et que un coffret y rassemble 8 films de ce cinéaste. Le ciel peut attendre. Vous voyez, on y vient. Ernst Lubitsch, film en Technicolor de 1943. Là, je crois, Nicolas, que tu n'étais pas né. qui devait sortir en salle en version restaurée le 18 novembre, et qui est désormais annoncé, je vous le dis, pour le 31 janvier prochain. Mais il est disponible en DVD chez Paramount et en VOD sur ce site que j'aime tant, de la Cinéthèque. Henri Van Cleef, c'est Don Ameche, vient de mourir, et comme il est convaincu de mériter une place aux enfers, ben il toque à la porte de son excellence le diable, Laird Cregar. Le problème du diable, c'est que il est comme Jean-Marc, il est très débordé. il prend malgré tout le temps d'écouter l'histoire d'Henri, qui lui raconte comment il est mort. Ça, j'adore, le mieux est du monde. J'avais mangé tout ce que les médecins m'avaient interdit. J'ai eu un accès de fièvre. Et quand je me suis réveillé, tout le monde autour de moi parlait doucement en disant du bien de moi. Alors j'ai compris que j'étais mort. la vie du fêtard et Casanova Henri, marié à Martha... Jean Turner, qu'il a quitté, est peuplé de femmes, comme Charles Denner, avec lesquelles il a eu des aventures. C'est 4 ans avant sa mort, là encore, l'un des derniers films de Lubitsch. T'étais très heureux, Jean-Marc, quand j'ai inscrit ce film au programme.
Oui, parce que c'est un de mes films de chevet. Moi aussi.
Vos chevets sont des écrans, en fait.
Non, c'est un de mes films préférés. Je l'ai vu adolescent, et alors que tout ce que le film raconte, en très grande partie, me restait à vivre, j'avais le sentiment que le film donnait une intelligence de la vie comme expérience inouïe, qui me faisait comprendre par anticipation tout ce qui me restait à vivre. Et à chaque âge différent où je le vois, je trouve que le film est absolument intact dans la manière dont il restitue toute la richesse d'une expérience humaine. Ce qui est très très beau, c'est que c'est de tout petits prélèvements, puisque c'est quelques soirées à des dates régulières dans la vie de ce personnage.
25 octobre.
Et en même temps, voilà, une date anniversaire, et en même temps, on voit défiler toute sa vie, vraiment, c'est comme du sable qui file entre les doigts. La vie comme expérience qu'on n'arrive pas à fixer, qui est totalement labile, qui passe comme un rêve. Et en même temps, ce que l'on retient est d'une richesse infinie. Alors tout à l'heure, on parlait du film de Truffaut, et c'est vraiment, je pense que Truffaut, vraiment, c'est totalement, c'est presque un remake. Enfin, il s'est vraiment inspiré du film qui raconte, ça pourrait être, le film pourrait s'appeler aussi L'homme qui aimait les femmes, le film de Lubitsch. Et la fin des deux films est identique. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière qui rentre dans la chambre d'un homme qui est en train de mourir. Et on voit tout ce qui sépare les films, c'est que chez Truffaut, il meurt dans une espèce de manque. C'est-à-dire qu'il essaie d'atteindre ce corps, il ne peut pas, il s'effondre. Donc on est du côté vraiment de la névrose et du manque. Alors que chez Lubitsch, qui est vraiment un très très grand épicurien, on n'est que du côté de la plénitude. Et cette apparition d'infirmière, c'est comme une dernière extase avant de s'envoler vers une autre vie. Et il y a vraiment une...
Et c'est Jean Tierney en blonde. C'est Jean Tierney qui joue en blonde, dans le miroir. C'est ça, c'est sa femme qui revient le chercher. Tout à fait,
Nicolas, puisque t'as la parole.
Ah bah moi, c'est mon autre film, c'est un de mes autres films. c'est un bonheur absolu. Enfin, il faut absolument que tout le monde voit ce film. Alors c'est un film de Noël, mais qui est moins connu comme film de Noël que par exemple La vie est belle de Capra. Et moi, je conseillerais à tout le monde de voir plutôt celui-là parce que le Capra, c'est formidable, le Capra. Mais c'est un film moralisateur. Enfin, c'est un moraliste, voire moralisateur. Celui-là, c'est que du plaisir. C'est que une ode à la légèreté. Ce qui est très beau dans le film, dans le personnage principal, c'est que ça, c'est son obsession de rester un enfant. On a l'impression qu'il sera puni jusqu'à la fin de ses jours. C'est aussi un film qui réaffirme l'importance des librairies, parce que ouvertes, parce que c'est là qu'il rencontre Jean Tierney. Ouais. Et elle était rentrée pour acheter un livre et elle en ressort avec l'homme de sa vie.
Ça confirme que c'est des lieux de rencontre.
Ouais. Moi, je l'avais vu adolescent, pareil. Alors, j'étais passé complètement à côté pour le coup. Je pense que j'étais encore trop bête.
Effectivement,
parce que j'y ai vu que le côté un peu bonbonnière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment comme ça un côté. C'est le premier film en couleur de Lubitsch. Il y a un côté très coloré, très pièce montée presque. Mais derrière, c'est d'une finesse et d'une richesse et d'une profondeur. C'est plus c'est pas une pièce montée, c'est un macaron la durée, quoi. Il y a quelque chose comme ça de. Non, on pourrait en parler des heures. Je sais plus quoi dire. Ce qui est fascinant, c'est à quel point le code Hays a permis à Lubitsch de devenir le génie qu'il est. C'est-à-dire que tout n'est que sexuel dans ce film. Tout ce qui se dit, c'est vraiment un film que tout le monde devrait voir. Et c'est un des plus beaux films du monde.
Camille.
Alors c'est sans doute le plus beau film là qui est au programme aujourd'hui. C'est un film magnifique. Alors je sais pas.
Tu veux dire par rapport à Borat ?
J'ai pas vu Borat. Donc, mais je vous fais confiance pour lui faire ce qu'il mérite. Alors c'est Lubitsch. C'est aussi un film testamentaire exactement comme le film de Truffaut. C'est tout à fait ça. Il est mort d'une crise cardiaque 4 ans après, Lubitsch. Oui. Ouais. Il était en plein divorce apparemment au moment où il filme ce qui était au départ une pièce de théâtre qui s'appelait Birthday. Mais le ciel peut attendre, c'est quand même Heaven Can Wait. C'est quand même un des plus beaux titres de film qui soit. C'est en effet un film en couleur, alors que Lubitsch, on le connaît. Moi, je me rappelle que quand je l'avais découvert, les couleurs m'avaient presque heurté. Et Jean Tierney en couleur m'avait presque heurté, parce que j'avais toujours pensé que Jean Tierney était quelqu'un qui était en noir et blanc. Et d'ailleurs, c'est le rôle de Jean Tierney avant qu'elle soit hyper célèbre. C'est avant Laura, c'est avant Mrs. Muir. Et déjà, elle apportait quelque chose de hanté, de fantomatique, de surnaturel, dans sa présence même, de cette espèce de douceur un peu myope et amoureuse. Bon. Moi, je trouve que c'est toujours les mêmes problématiques chez Lubitsch, c'est le rapport entre le temps du plaisir, qui est un temps court, et le temps du bonheur, qui est un temps long. Et c'est quand même un film magnifique d'amour. Enfin, je veux dire, dès qu'elle apparaît, Tierney, le personnage de Martha, c'est espèce, parce que c'est ça, hein, on voit pas ses maîtresses, on devine que c'est quelqu'un qui est un viveur, un cavaleur, comme Denner dans le Truffaut, sauf que là, on voit pas, on devine que les bonbons, il en a mangé, comme sa nounou française lui disait, que le monde est une bonbonnière. Mais quand même, la présence de Jean Tierney, cet amour entre eux, cette espèce d'intimité perdue qu'il relate, parce que c'est ça, sa vie, finalement, c'est la façon dont il la relate qui lui donnera accès au paradis. C'est que finalement, la seule chose qu'il retient, c'est cet amour pour cette femme qu'il a aimée malgré ce qu'il était, c'est-à-dire veule, comme tous les hommes, et infidèle, etc. Mais finalement, ce qu'on retient du film, c'est un rapport magnifique de ces événements, de ces micro-événements, toujours chez Lubitsch, entre deux portes, dans un entrebâillement, dans des petits salons, dans des halls, où la vie se situe et où la vie passe, le temps qui passe, c'est le sujet du film, c'est magnifique.
Michel.
Oui, alors, je voudrais citer John Ford. Très surprenant, John Ford a dit une fois « Nous, à Hollywood, nous pensions tous que nous faisions du divertissement. Lubitsch pensait que nous faisions de l'art. » Et je pense que c'est une de la plus belle définition. Donc, je pense Lubitsch, pour moi, c'est un des sommets du cinéma. Mais je mettrais néanmoins un bémol sur Le ciel peut attendre. D'abord, c'est un de ces très rares films qui se passe en Amérique. Toute l'œuvre de Lubitsch, pratiquement, se passe en Europe. Et le personnage de Don Ameche est un Européen transplanté. C'est un Américain, mais c'est comme s'il était Européen. Il est hédoniste. On l'oppose d'ailleurs aux parents de Jean Tierney, qui sont un couple bof du Kansas, complètement américain profond, etc. Et là, on voit que la méchanceté de Lubitsch à l'égard de l'Amérique, parce qu'il ne peut pas supporter cette société matérialiste, évidemment. Mais en même temps, je pense que le personnage, c'est l'acteur Don Ameche qui me gêne un peu. Je ne trouve pas que ce soit qu'il a la sélection des grands acteurs de Lubitsch. Il est assez fade et je pense que ça joue un peu contre le film. Cela dit, évidemment, mais comparé à Ninotchka ou To Be or Not to Be ou le Shop Around the Corner, c'est pas le niveau le plus élevé de Lubitsch, mais c'est déjà très élevé.
Le ciel peut attendre d'Ernst Lubitsch. C'est donc disponible sur la Cinéthèque avant de le voir sur grand écran à partir du 31 janvier, d'un ciel à l'autre. Il devait sortir en version restaurée mercredi prochain, le 25 novembre, bien sur les écrans. Mais son éditeur annonce qu'il faudra attendre janvier prochain pour le voir sur grand écran. C'est Thérèse d'Alain Cavalier, mais qui est disponible en DVD chez Arte et en VOD, toujours sur le site de la Cinéthèque, film de 1986, pour un portrait très libre de Thérèse Martin, alias Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, incarnée ici par Catherine Mouchet. Thérèse, venue d'Alençon, entre à 15 ans au Carmel de Lisieux, où sont déjà ses sœurs. Elle souffre d'une maladie mystérieuse, d'hallucination, et elle meurt de tuberculose en 1897, à 24 ans, en laissant en guise de testament « Histoire d'une âme » où elle écrit « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Elle a été canonisée en 1925, film très dépouillé, sur fond gris, presque sans décor, avec beaucoup de fondu au noir. Bref, une épure, je fais, disait Cavalier à l'époque, un film sur des personnes dont le silence est la règle. Le film avait eu le prix du jury à Cannes et César du meilleur film. Vous me dites très rapidement ce que vous en pensez, Michel.
Mais c'est un film passionnant parce qu'il n'est pas tellement... je ne l'ai pas vu comme beaucoup de gens le voient. C'est-à-dire, on le rattache à un cinéaste spiritualiste, c'est-à-dire Bresson, Dreyer, etc. Pour moi, il ne va pas aussi loin que Buñuel, mais il se rapproche de Buñuel parce qu'il montre une communauté de femmes célibataires qui n'ont aucun rapport avec les hommes et qui ne parlent que des hommes à travers Jésus. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une passion amoureuse d'une femme, d'une jeune femme, très jeune, qui est follement amoureuse de Jésus. Et en même temps, dans une série d'exercices masochistes, c'est terrible la façon dont Cavalier nous montre les clous, le corset à courroie, le gant de crin, elle se brûle avec de l'eau très chaude, etc. Donc il y a une série d'exercices masochistes, et je trouve que ça donne au film un aspect extrêmement troublant, extrêmement inquiétant même. Et finalement, Thérèse, c'est plutôt... elle est plus proche de Rimbaud ou de gens de ce genre. Voilà. Bon, j'abrège parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Pour aller très vite, il y a un petit miracle dans le film qui est que, comme tu l'as dit, il est extrêmement dépouillé, extrêmement rigoureux, mais il n'est pas du tout austère. Il y a une forme de gaieté dans le film, une manière de faire, un peu comme l'a dit Michel, de la foi, une affaire de midinette, une sorte de délire comme ça, extrêmement libidinal, qui est très très beau.
Camille.
Oui, je le découvre aussi. C'est comme le Kubrick, mais rien à voir. Sinon, que c'est un très beau film. Que je suis très étonnée du nombre de prix de César qu'il a eu. Je me demande comment un film aussi austère, enfin, même si, comme Jean-Marc le dit très bien, c'est un film plein de joie et le visage et le sourire de Catherine Mouchet a éclairé apparemment beaucoup de spectateurs à l'époque. Mais c'est ce que j'appelle le film. Il y en a quelques-uns comme ça dans l'histoire du cinéma, de films de religieuses, comme en effet Les Anges du Péché ou Les Cloches de Sainte-Marie de Macarey. Le Narcisse Noir ou La Religieuse de Jacques Rivette d'après Diderot. C'est comme ça, c'est une façon de filmer une micro-société claustrée, fermée et d'une sororité. Elles sont toutes mariées avec Jésus. Là, c'est un film sur l'amour et la grâce. Et c'est pas Heaven Can Wait, c'est surtout Le Ciel N'Attend Pas, là, pour le coup. Et le film est dans son espèce d'austérité qui est filmée à ras. Il y a quelque chose qui est aussi à ras-bord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui exulte toujours dans cette espèce d'austérité incroyable de fait avec rien. C'est fait avec rien, ce film, c'est fou.
Avec Jean Pellegrini dans le rôle du père d'ailleurs et Clémence Massard dans celui de la prieure, Nicolas.
Oui, je connaissais pas le film, je l'avais pas du tout vu et j'avais découvert aussi Le Combat dans l'île grâce à un précédent masque du confinement et à chaque fois que je découvre un nouveau film de Cavalier, j'ai envie d'enrichir parce que je trouve que c'est un des cinéastes les plus intrépides et gracieux qui est toujours vivant. Et là vraiment oui, j'ai été très étonné parce que c'est vraiment un film sur la chaleur de la foi dans un contexte dans une église rigide et terriblement patriarcale comme on le voit, mais on va pas développer, mais c'est voilà, il y a vraiment ça. et comment ces jeunes filles effectivement sont comme
c'est
des
le Carmel quand même, c'est pas une enfin, c'est le Carmel quand même.
Oui, c'est pas... c'est elles sont entre elles, mais sauf qu'elles vont à chaque fois elles doivent être adoubées par le grand archevêque.
Enfin, il y a par l'archevêque, je vois l'arche... je vais on va reprendre
oui,
ça
oui. Tranquillement après l'émission, hein. C'est pas vraiment mon fort l'éducation religieuse, mais j'ai pas toujours les bons termes, mais bon voilà, elle doit être acceptée pour entrer au couvent avant l'âge requis. Catherine Mouchet, je trouve, apporte une exaltation et une fraîcheur et une vie au film qui est assez dingue. Et effectivement, c'est un film très très étonnant et à voir vraiment sur la beauté de la foi et comment elle parle de Jésus comme effectivement elle en parle amoureusement. C'est assez
oui,
troublant.
Il y a des phrases comme on en pince pour un type qui est mort il y a 2000 ans.
Thérèse Alain Cavalier.
C'est tout tiré de donc, Thérèse Lisieux. Hein.
C'est donc sur grand écran en janvier et d'ores et déjà chez Arte en DVD et en VOD sur le site de la Cinéthèque. Allez, rapidement pour le coup, et pour finir cette émission, 14 ans après Borat, vous savez, ce faux documentaire parodique signé Larry Charles. Donc Borat 2, mais qui est réalisé cette fois par Jason Wolliner. Toujours, évidemment, avec Sacha Baron Cohen, disponible en VOD sur Amazon Prime Video, où on retrouve donc le journaliste kazakh qui, après avoir connu la prison, est chargé de livrer un singe au vice-président Mike Pence, et puis sa propre fille de 15 ans. On verra aussi comment il piège l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Bon, pour le cinéma, on peut le dire très rapidement, on repassera. Mais que pensez-vous en quelques mots du pamphlet politique, Jean-Marc ?
Beaucoup, beaucoup de mal. Je me permettrai d'être dogmatique. Moi, je pense pas qu'on puisse faire du cinéma avec de la caméra cachée. Je pense pas qu'on puisse faire un film uniquement pour se foutre de la gueule des gens, sans du tout chercher à les comprendre. Et la manière dont il piège ces pauvres personnes républicaines...
Ce que fait un peu parfois Michael Moore, hein, quand même. Parfois.
Oui, c'est ce que je dis. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, Michael Moore n'est pas tout à fait un cinéaste. Et Sacha Baron Cohen, encore moins. Non, je trouve le film vraiment désolant. Je déteste la manière dont il mêle la caméra cachée avec de la fiction, une fiction perfide qui est vraiment mais débile.
Il y a beaucoup, beaucoup de caméras cachées dans celui-là. Hein.
Oui, mais il y a aussi beaucoup de scènes perfides avec une comédienne. Oui. Et ces scènes-là sont vraiment très mauvaises. Et surtout, elles s'annulent l'une l'autre. Du coup, tout me semble faux, bidonné. Et encore une fois, je trouve que c'est une visée. Faire du film pour piéger les gens, pour moi, c'est pas du cinéma.
Et puis, pour le coup, l'anti-Trumpisme arrive un tout petit peu en retard, si j'ose dire. Camille ne l'a pas vu ?
Non.
Nicolas,
moi, je le vois
quelques
pas comme,
mots. Hein.
Ouais, je le vois pas comme un film de cinéma. Je vois vraiment l'ambition, c'était un tract politique. Et effectivement, après, le problème, c'est que je pense que là, c'est là où les limites du film se posent. C'est-à-dire que le tract politique, il est assez stérile. C'est-à-dire que je pense que le film ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus. Et que la manière de faire, c'est-à-dire de mélanger les caméras cachées et les sketchs mis en scène, comme vous l'avez dit, c'est un vrai problème. C'était déjà le problème dans le premier Borat. À un moment, il y a une forme de malhonnêteté et presque, j'allais dire, une frustration parce que finalement, les caméras cachées, les chutes sont assez décevantes. Et la manière dont ils piègent, par exemple, Rudolph Giuliani, ça a permis de faire beaucoup de buzz
le film. Presque.
Alors que concrètement, il a raté son coup vraiment parce qu'il ne tire rien. Il y a rien de nouveau sur Giuliani qui apparaît dans le film. Après, moi, j'ai quand même le petit plaisir de certains moments où il réussit à faire chanter une chanson horriblement xénophobe devant un parterre de fans de Trump. Où il y a quand même des petits moments quand même assez caustiques et vraiment vraiment pertinents. Mais c'est vraiment les limites. On a envie de voir le making of quoi, en gros.
Michel,
plus que le film.
Non, c'est le seul film contemporain face à 5 ou 6 très grands films dont on vient de parler. Je trouve que le match est illégal parce que le film est d'une telle médiocrité.
Ah oui.
Borat est tellement mauvais comme acteur comparé aux très grands comiques qu'on a vus au cinéma que je trouve que c'est injuste parce que les gens pourraient croire que le cinéma est en plein déclin. Non, non, Borat est un accident industriel.
Eh bien, c'est Borat 2 de Jason Wolliner et on oublie, on passe aux conseils juste avant vos conseils. Et je vous annonce que l'heure est venue du 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume et comme chaque année, je vous propose de voter pour le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de la tempétueuse année 2020. Il vous suffit de nous écrire avant le 20 décembre prochain vos deux choix sur le site du Masque et la Plume franceinter.fr à la page courrier ou réagir. Tout simplement, vous nous dites ce que vous avez aimé et nous décernerons le prix, votre prix, plutôt en début d'année prochaine et j'espère cette fois en public. Allez, le conseil de Camille.
Alors, deux sorties DVD du mois, c'est toujours des films qu'on a envie de revoir. Donc, chez Potemkin, il y a le Muriel ou le temps d'un retour d'Alain Resnais, film très beau, puisque Seyrig, qui a un de ses plus beaux rôles, et la guerre d'Algérie, qui est un sujet très très peu traité dans le cinéma français. Enfin, c'est un film absolument magnifique, avec une des plus grandes actrices du cinéma français, qu'il faut redécouvrir. Et puisqu'on parlait de Thérèse et que je citais Les Anges du Péché, Les Anges du Péché aussi, chez Gaumont, sort en DVD ces jours-ci, où on retrouve dans la sororité bressonienne, dont c'était le premier film, et à mon avis l'un de ses plus beaux, René Fort, Jeanne Holt, Sylvia Montfort, Mila Parelli. C'est un film très beau aussi sur l'orgueil et l'amour.
Le conseil de Jean-Marc.
Un film nouveau qui s'appelle Cemetery, d'un cinéaste, d'un documentariste expérimental qui s'appelle Carlos Casas. C'est un film qui sort directement sur la plateforme de cinéma d'auteur Mubi, qui avait fait un peu le tour des festivals en 2019 et qui la sort sur Mubi, et qui montre l'agonie d'un éléphant, ce qui peut sembler un sujet un peu ténu, mais ça ressemble un peu à du Pichapong Verazeta Cool. C'est assez contemplatif, et la manière dont ça se passe en Inde, et il peut passer 10 minutes à filmer la pilosité, la texture de la peau d'un éléphant, et c'est sublime.
Le conseil de Michel.
Alors, d'abord, un livre de Vincent Amiel et José Moore qui s'appelle « Histoire vagabonde du cinéma », un livre de 600 pages chez Vendémiaire. C'est une circulation à travers les films. Il y a 24 chapitres, chacun s'appuie sur 4 films. On parle des visages, des corps, des paysages, des villes, des plans, des couleurs, des récits. Enfin, c'est très complet et en même temps extrêmement ludique. Et puis alors, je signale tout de même une nouvelle plateforme qui s'appelle « Salto », qui programme 2 films de Stephen Frears, absolument remarquables, le grand cinéaste britannique, qui s'appelle A Very English Scandal, et l'autre Quiz. Ce sont 2 scandales qui se sont passés en Angleterre, qui illustrent très bien la lutte des classes. D'une part, un politicien homosexuel qui s'est fait chanter, on essaye de le faire chanter, et il essaye de tuer le jeune amant qu'il a eu. Et d'autre part, Quiz, qui est une émission de télévision où un homme très honnête a gagné 1 million de livres sterling, et la compagnie, qui, au lieu de lui donner 1 million, le traîne en justice et il est déclaré coupable.
Le conseil de Nicolas.
Alors moi, très vite, parce qu'on a parlé de Lubitsch, du grand Lubitsch, juste parler de ce petit livre qui a un bonheur absolu, qui s'appelle Amitié, la dernière retouche, d'Ernst Lubitsch, qui est écrit par Samson Raphaelson, un de ses co-scénaristes. Ah oui. Et en fait, c'est tout petit, mais c'est absolument un bonheur, c'est que Raphaelson a appris que Lubitsch avait une crise cardiaque, on lui a demandé d'écrire sa nécro, et en fait, Lubitsch s'est remis de sa crise cardiaque, et il a dit à Raphaelson, j'ai appris que tu avais écrit ma nécro, j'aimerais bien la retoucher avec toi, et il raconte tout ça, et c'est absolument génial. Et sinon, c'est beaucoup plus contemporain, les mémoires d'Oliver Stone, à la recherche de la lumière, qu'on aime ou pas son cinéma, c'est peut-être une des plus grandes mémoires que j'ai pu lire d'un cinéaste. C'est-à-dire, c'est passionnant, ça raconte l'Amérique, ça raconte toute sa carrière de scénariste et de cinéaste. Voilà, faut lire la biographie d'Oliver Stone.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Camille Nevers, Nicolas Chalère, Jean-Marc Lalanne, Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella, mais ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française, et je les remercie. Il y avait Cédric Châtelut et Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de littérature. Un dimanche prochain sur France Inter, évidemment.